Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour! La première question qu'on m'a posée, c'est « Mes enfants se disputent beaucoup, comment faire à la maison ?» Quand ils cherchent mon appui, quand ils cherchent un arbitrage. Donc, on va parler de la notion différente entre la médiation et l'arbitrage. Quand on a plusieurs enfants, et c'était le cas quand j'étais aussi en maternelle en tant qu'enseignante, il y a souvent des disputes qui se créent au coin-jeu, à une activité, dans la cour de récréation, dans l'activité de sport. C'est normal qu'il y ait des désaccords, c'est normal qu'il y ait des mots qui fusent, que quelqu'un exprime son mécontentement, que quelqu'un ne soit pas en capacité de lui répondre calmement. Donc, il y a dispute, il y a bagarre, ça peut en venir aux mains, ça peut en venir aux insultes, ça peut en venir à de la violence. Le degré d'intensité varie d'une journée à l'autre, mais dans la famille, on peut retrouver aussi cette idée-là. Que vous ayez des enfants petits, qui se disputent des jouets, qui se disputent l'attention de maman, j'étais là en premier, pourquoi tu fais ça, c'est toujours toi qui commence ou c'est toujours toi qui choisis la place. Ça peut être vraiment pour des broutilles, pour choisir la place dans la voiture, pour être à côté de papa, pour tourner la soupe. Le moindre prétexte peut être sujet à dispute quand on a des enfants d'âge rapproché. C'est un petit peu moins le cas quand on a des enfants d'âge lointain, séparés, éloignés. La première chose à faire, et que je vous dis quasiment dans toutes les rooms, c'est d'observer ce qui se passe réellement. Donc d'effacer un petit peu tout le filtre qu'on a et l'historique qu'on a concernant chacun des enfants, parce que oui, on est peut-être habitué à ce que ce soit toujours le petit qui râle ou qui vient nous chercher, et ça, ça nous biaise en fait. Ça nous fait un filtre d'interprétation dès le début. Donc d'essayer d'observer au maximum ce qu'on a vu, entendu, perçu. Est-ce qu'on était dans la même pièce quand ils ont commencé à se disputer? Est-ce qu'on a l'origine de la dispute? Est-ce qu'on a le déclencheur? Parfois oui, parfois non. Parfois on a été témoin, mais même en étant témoin, la façon de le raconter va être encore différente parce que l'enfant qui vient nous chercher pour arbitrer, pour faire médiation, il a aussi son filtre. Il a aussi envie d'être entendu et d'être écouté. Il y a ces premiers éléments à voir, mais le premier, c'est vraiment de dire « Je t'écoute, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» Le premier enfant va expliquer « Oui, il a fait ça, et moi j'ai fait ça, et c'est pas juste. » Donc il va donner son avis, il va donner son interprétation, il va donner sa lecture de la situation. Et à ce moment-là, la posture que tu vas utiliser pour accompagner ton enfant va être en écoute active, en écoute empathique. Donc cette écoute active, cette écoute empathique, je l'ai beaucoup détaillé dans l'épisode 56, si tu veux avoir vraiment la ligne totale de qu'est-ce qu'une écoute active et empathique. Et concernant notre enfant, on ne va pas l'interrompre, on va le regarder dans les yeux, on peut hocher la tête, on peut se mettre à sa hauteur et on peut vraiment recevoir ses paroles avec importance, avec implication, avec considération. Cette première étape, elle est très importante pour que l'enfant se sente entendu, écouté et qu'il se sente aussi légitime de venir porter son problème à un adulte. Il peut y avoir des disputes où on n'a pas envie que l'adulte vienne s'en mêler parce qu'on est un peu dans notre tort, parce qu'on n'est pas très clair, on a un peu honte. Et c'est aussi des situations qu'on rencontre dans la famille. Mais là, on admet qu'un des enfants est venu nous chercher pour médier, pour arbitrer. Une fois qu'on a écouté le premier enfant, on va proposer au deuxième enfant d'expliquer à son tour ce qui s'est passé pour lui. Et là, il y a un avis divergent généralement, parce que lui pense aussi que c'est l'autre qui a commencé, lui pense aussi qu'il est dans son bon droit, et ce moment-là va être sujet aussi à interprétation et à filtre. Une fois qu'on a entendu les deux enfants, on va pouvoir proposer déjà de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter la dispute, donc de leur poser la question. Et la différence entre un arbitre qui vient décider et un médiateur qui pose la situation et qui propose aux enfants de s'emparer en fait de la situation problème est différente. Si j'arrive en disant « toi, tu vas dans ta chambre et toi, tu vas écrire des lignes » ou « toi, tu vas au coin et toi, tu vas sur la chaise », c'est l'adulte qui est très descendant, qui apporte sa solution, qui a la vérité, qui a la référence à la loi. Ça a été comme ça pendant des dizaines d'années, hein, sur l'autorité parentale, sur l'autorité même institutionnelle. La posture que je vous invite à prendre quand il y a une dispute entre frères et sœurs, c'est après avoir écouté chacun des participants, de leur dire « ah, mais est-ce que ça vous dérange de vous disputer? Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous voulez arrêter cette situation ?» ou ça vous est finalement agréable de vous disputer. Donc là, ils prennent conscience qu'il y a un problème, qu'ils n'ont pas envie de rester dans le conflit. Ils peuvent l'avoir ressenti, mais pas forcément verbalisé et conscientisé. Donc c'est vraiment appuyé sur « vous voulez qu'on trouve une solution à ce problème ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ?» Et on les laisse réfléchir à la situation. On les laisse analyser les éléments, les facteurs, les hypothèses. Donc, il y a un travail autour des fonctions exécutives qui se met en place. Les fonctions exécutives, je les ai détaillées dans l'épisode 48, si vous voulez aller l'écouter. Pour que chaque enfant se sente concerné, il faut qu'il arrive aussi à un moment à se décentrer. Et ça peut être un peu difficile quand c'est les premières fois où vous venez faire une médiation. Parce que l'enfant, depuis sa colline, pense qu'il a raison, pense que son besoin est prioritaire, pense que son comportement est le bon et que c'est l'autre qui a tort. Tout comme l'autre enfant, depuis sa colline, pense qu'il a raison, que ses besoins sont prioritaires et que c'est l'autre qui a tort. Une autre façon de penser, qu'on fait en atelier notamment de communication non violente, est d'inviter chacun des deux personnages à se décentrer un tout petit peu de sa colline pour imaginer ce qui se passe sur la colline de l'autre, pour imaginer que l'autre en face n'a pas vu le besoin prioritaire, n'a pas compris la situation comme moi, n'a pas les mêmes flammes d'émotion dans sa cheminée des émotions, et ne vit pas la situation comme je la vis moi. Il peut aussi être en colère comme moi. Il peut aussi être triste comme moi. On peut avoir des flammes analogues, similaires dans nos cheminées, mais qui viennent taper sur des besoins différents. Ça peut taper sur des rayures différentes de notre arc-en-ciel de besoins. Si on est d'accord sur la même émotion des deux côtés de la colline, si on est d'accord sur les mêmes besoins des deux côtés de la colline, ça peut être intéressant aussi de voir que, humainement, de manière universelle, on a les mêmes besoins et on a les mêmes émotions. Par contre, on n'a pas la même pensée sur la situation si on se dit que ce n'est pas juste, que c'est l'autre qui a commencé. On reporte la faute sur l'autre. Et le médiateur va essayer de faire entendre chacune des positions à l'autre personne, de faire co-créer une solution ensemble, de proposer des hypothèses qui sont valables dans la réalité ou dans la temporalité et qui ont un rapport avec la situation initiale. Nous, un peu comme dans l'atelier philosophique, où je parlais de la posture de l'animateur d'un atelier philosophique, c'était dans l'épisode 57, on va être là pour guider la parole et la réflexion et la conscientisation de la dispute. On a un avis intérieur, très certainement. On a même une solution intérieure, très certainement. Mais si ce sont nos enfants ou nos élèves, on a tout intérêt à leur transmettre la méthode de médiation, à les rendre auteurs et responsables de la dispute et de la résolution du conflit. Parce qu'ils vont se sentir compétents à mieux comprendre comment le conflit s'est déclenché. Et ils vont se sentir aussi mieux compétents pour la prochaine fois qu'ils auront à faire face à une dispute. Et cette fois-ci, ce ne sera peut-être pas avec son frère. Cette fois-ci, ce sera peut-être avec son meilleur ami ou à l'école ou avec un plus grand ou avec un cousin. Mais il pourra répliquer, dupliquer une méthodologie parce qu'il aura compris de l'intérieur que depuis sa colline, c'est normal qu'il se soit énervé, qu'il ait eu peur, qu'il se soit senti triste. Mais les actions qu'il a mises en place ont alimenté en fait la colère de l'autre, la tristesse de l'autre, la peur de l'autre. Ils se sont rendus un peu co-responsables et en contamination mutuelle d'émotions. L'enfant sur la colline de gauche et l'enfant sur la colline de droite ont tout à fait raison et le droit de ressentir cette frustration, cette inquiétude, cette culpabilité, ce doute, cette tristesse, cette peur. Mais ils ne vont pas l'exprimer avec la même lamelle sur leur éventail de stratégies. C'est aussi un épisode que vous pouvez retrouver sur le podcast. Et notre rôle en tant que parent et éducateur, c'est de fournir le maximum de situations, d'hypothèses et de propositions pour que chacun des enfants ait de nombreuses actions à mettre en place, de nombreuses activités à mettre en place, peut-être des phrases, peut-être des attitudes, pour qu'à chaque fois qu'il soit en conflit, il puisse piocher dans sa boîte à outils et il puisse entendre que l'autre avait une émotion, une vision, une interprétation différente de la sienne. Sur un de mes outils, on voit le 6 allongé par terre entre les deux collines. Donc depuis la colline de gauche, on voit un 6 et depuis la colline de droite, on voit un 9. Et les deux ont raison. C'est un point de vue, c'est un changement d'altitude. Comme je propose aux parents de monter en haut du phare dans les accompagnements pour voir un peu la situation d'en haut, pour prendre de la hauteur sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Quand vous avez une dispute dans la famille, vous allez à la fois prendre de la hauteur pour vous, pour pas être contaminé par leurs émotions à eux. Vous allez prendre de la hauteur pour vous décentrer aussi de vouloir donner raison à l'un par rapport à l'autre. Aucun des deux n'a raison. On sort de cette polarité et de cette binarité où l'un a raison et l'autre a tort. On cherche un compromis. On cherche une réconciliation, une coopération. On ne va pas leur réexpliquer tout ça, parce que dans la cour de récréation, on va à l'essentiel. On écoute le premier, on écoute le deuxième, on pose la situation, on les fait émerger dans des stratégies et des hypothèses de sortie de crise. Et ensuite, on les laisse choisir quelle est la sortie de crise qui leur paraît la plus pertinente, la plus efficiente, celle qui aurait la moins de conséquences pour l'un et pour l'autre. À l'école, ça va être un peu différent de dans votre salon quand vos deux filles se tapent dessus, bien entendu, parce que l'affect, votre cheminée à vous, risque de réagir avec vos enfants. Surtout si vous étiez en train de faire quelque chose dans une autre pièce. Il y a des parasitages, il y a des interférences entre votre besoin à vous de continuer ce que vous étiez en train de faire et la situation qui réclame votre attention et votre aide. D'autant que chacun de vos enfants, suivant son âge, peut être aussi en quête de validation, en quête d'approbation ou d'attention de votre part. Quand il va exprimer sa vision du conflit, de la situation, vous allez pouvoir essayer aussi de scanner indirectement quel est son besoin. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à être entendu? Il cherche à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça? Il cherche du calme? Il cherche de la contribution? Il cherche à se sentir puissant? Et là, vous pouvez aller sur chacune des rayures de chacun de vos enfants pour vous orienter, pour trouver avec efficacité, avec aussi supposition, bien sûr, parce qu'on n'est pas sûr de tomber juste, mais plus vous les observez, et plus vous allez savoir vite quelle rayure clignote dans ce conflit-là. Et ensuite, tout comme on fait le scan individuel en séance individuelle, vous et moi, pour chacun de vos enfants, vous allez dire « Ah oui, donc si tu avais besoin de ça, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place comme temps, activité, action ?» pour que ce besoin-là soit nourri, soit satisfait. Et là, on leur propose un outil du Tekil, de trouver quelle est l'activité, quelle est l'action qui va nourrir à la fois ses besoins, le faire revenir à une flamme acceptable, à une flamme agréable, faire redescendre sa flamme désagréable dans sa cheminée des émotions, pour qu'il puisse ensuite s'emparer d'une paix retrouvée, d'une harmonie. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas dans la demi-heure. Mais le fait de l'autonomiser sur ce conflit, sur cette dispute, sur cette bagarre, lui permet, à mon avis, de se rendre citoyen aussi dans la communication et dans la relation à l'autre. Si je suis toujours en train d'accuser l'autre de ma propre flamme, quand je vais grandir, je risque de continuer à faire ça. Avec la société, avec mon patron, avec le ministre, avec mon voisin. Alors que si très vite je me dis « on n'est pas d'accord, on est en conflit », on a un point qui n'est pas sur nos deux visions de la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux écouter ta position. Je peux essayer de me décentrer. Je peux entendre que tes besoins, tu penses les nourrir de cette façon-là. Et je peux tout aussi bien exprimer ce qui se joue en moi. Comment je me sens? Pourquoi je choisis cette action? Pourquoi ça te dérange? En quoi le choix que j'ai fait, la phrase que j'ai dite, l'action que j'ai posée, te dérange, toi, de ton point de vue. Il y a un point de conscience sur ce que je vis et ce que tu vis. Il y a un point de conscience entre ce que je voudrais et ce que tu voudrais. Est-ce que tout ça est réconciliable? Ou est-ce que je cherchais juste l'attention de maman ou de papa quand j'ai créé cette dispute? Ça peut aussi être une stratégie. Se disputer avec son frère ou sa sœur, ça peut être une manière d'attirer l'attention. Ce n'est pas la principale, mais ça peut être aussi ça. S'affirmer, avoir envie de contrôler quelque chose, d'avoir du pouvoir. Imaginons un enfant qui a été toute la journée vraiment conditionné, frustré, sous pression, à respecter toutes les règles. En rentrant le soir, il voit une chose qui ne va pas, qui ne lui plaît pas, et ça déclenche une flamme de frustration de tout ce qui s'est passé dans la journée. Parce que toute la journée, il s'est peut-être senti contrôlé, cadré, et là, il a besoin de légèreté, de mouvement, de défi, d'autonomie. Ses besoins sont normaux. Comment il va les mettre en place, c'est une autre question, hein, bien sûr. Pour que chacun de ses besoins soit satisfait dans la journée, on va le rendre conscient de quels sont ses besoins. Comment il peut mettre en place des choses pour nourrir ses besoins au quotidien. Et le fait que le frère ou la sœur soit arrivé à ce moment-là et été l'étincelle hein, qui envoie cette flamme dans sa cheminée, c'est annexe, c'est anecdotique. Et quand les enfants sont d'âge rapproché, ils jouent mutuellement ce rôle d'étincelle pour la cheminée de l'autre. Je vous rappelle les trois petits principes pour être dans une posture de médiation et non pas d'arbitrage. Je fais la part, moi, avec ce qui se joue en moi quand je les entends crier, mes enfants dans le salon, mes filles dans leur chambre. Je viens écouter, en écoute active et empathique, comment chacun des enfants se sent, ce qui se joue dans leur cheminée, quel est le besoin qui clignote. J'essaye d'analyser tout ça pour envisager des stratégies s'ils ne les trouvent pas. Mais pour l'instant, je ne dis rien. J'écoute. Ensuite, je reformule le problème et je rends à chacun la place et la légitimité de son émotion en disant « Bah oui, c'est normal, vous n'êtes pas d'accord, vous ne pensez pas la même chose. Toi, tu m'as dit que tu pensais comme ça, toi, tu m'as dit que tu pensais comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme solution? À quoi on pourrait réfléchir pour que vous soyez tous les deux satisfaits? Pour que vous ayez tous les deux un moment dans cette chambre ou un moment avec ce jouet ou une place à côté de papa? Est-ce qu'il y en a un, ce sera le midi, un le soir? » Vous les laissez faire émerger ces solutions-là, vous les laissez choisir celles qu'ils veulent utiliser pour maintenant, pour demain, pour après-demain, et ensuite ils vont passer à l'action. Ils vont tester si la solution leur convient. Et peut-être que ce ne sera pas la bonne solution du premier coup, et que la prochaine fois, ils auront une autre envie, une autre idée, une autre résolution de problème. À la fin, on reformule avec eux comment ça s'est passé, ce qu'ils ont ressenti, quels besoins à clignoter, quelles activités ils vont mettre en place. Comme ça, ça va ancrer dans leur mémoire que si la situation se représente, on pourra se servir de cette base de données en disant « Ah mais oui, il y a 2 semaines, vous aviez déjà eu cette bagarre et cette dispute. Comment vous aviez fait à l'époque? Comment vous vous étiez senti? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'on reprend la même solution? Est-ce qu'on change de solution ?» On peut être créatif à chaque nouvelle dispute. On peut être créatif à chaque nouvelle bagarre. Mais pour arriver à ce point numéro 3, eh bien, le point numéro 1, c'est vraiment notre posture d'adulte, qu'on soit enseignant ou qu'on soit parent. Je ferme, je mets une étanchéité entre ma cheminée à moi d'adulte, de responsable, d'éducateur, et ce que je vois. Parce que sinon, moi aussi, je vais contaminer. Moi aussi, je vais être contaminée. Donc la contamination émotionnelle, c'est l'épisode 71. Quand on donne de l'importance à notre enfant, quand on lui propose de réfléchir ensemble à la sortie de crise, quand on le rend acteur de la résolution de problèmes, ça devient horizontal. La relation devient horizontale. Et c'est le tout premier épisode du podcast qui s'appelle « À sa hauteur ». Quand on se met à la hauteur de l'enfant, quand on légitime ses émotions, quand on légitime son comportement, même s'il ne nous paraît pas adapté, et on pourra le modifier plus tard, hein, mais on légitime que là, aujourd'hui, il n'a pas su faire autrement. Il n'a pas su faire sans taper son frère. Il n'a pas su faire sans crier, sans balancer un objet de rage. Parce que pour l'instant, ce comportement est le seul qui lui vient spontanément. Et la question des comportements adaptés, hein, qui revient très régulièrement en accompagnement parental, elle est abordée dans l'épisode 67, si vous souhaitez. Parce que tout comportement peut être modifié, mais il va falloir d'abord prendre conscience que ce comportement, c'était une bonne idée pour l'enfant. Ou c'était peut-être le seul qu'il connaissait. Donc on va ouvrir son éventail de stratégies, on va alimenter sa base de données d'actions possibles pour que quand il se sente frustré, il ait d'autres solutions que de taper sa petite sœur. Quand il se sentira frustré, il verra que sa colère vient d'un manque de calme, d'un manque de mouvement, d'un manque de considération, et il aura d'autres outils. Et c'est vraiment ce qu'on fait en scan, en séance individuelle. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez réserver sur le lien Calendly qui est dans ma bio Instagram ou dans ma bio Facebook pour réserver une séance et je vous détaille tout ça avec ce que vous vivez précisément. J'espère que ces pistes pour les disputes en famille, les disputes en classe, les disputes dans la fratrie vous aura été utile. Dites-moi sur les réseaux sociaux si ça vous a apporté des pistes. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.